Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 28 juin 2018. Mm-hmm. C'est Marie Lalande qui vous parle, avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Guiroir, Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie.
Bonjour et Mathieu Tessier en régie.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui?
Ben moi, je vous amène en vacances.
Ah, c'est bon ça.
C'est comme... Mathieu, d'accord. En fait, je vous emmène me faire de la marche en vacances, inspiré par Compostelle, mais ça se passe aux îles de la Madeleine. Alors, mes deux interventions, c'est le même article qui se divise en deux, puis je vous amène faire de la marche.
On va y tirer.
Aux îles de la Madeleine.
Excellent. Et Monique?
Alors, moi, je vais parler de cœur d'abord, alors, et de solitude. Oh. Alors, quel impact peut avoir la solitude sur les maladies du cœur?
Ouais, ouais.
Pour ensuite nous égayer en complément, je vais vous parler des chansons vers d'oreille.
Mais pourquoi? On n'en nomme pas, là. On veut pas...
Non.
On marche aux îles de Madeleine.
Voilà, pourquoi elles deviennent vers d'oreille?
Ah.
Et ensuite, je vais vous parler du bonheur. Pourquoi sommes-nous toujours en quête de quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus ci, de plus ça?
Oh, ça, c'est super intéressant, on a hâte. Et de mon côté, je vais vous parler de prise de crayon. Alors, est-ce qu'il y a une façon de bien tenir son crayon pour écrire quand on apprend? Non, pas le clavier, le crayon. Et je vous parle aussi d'une enseignante de la région de Québec qui a décidé d'aménager sa classe autrement. Allez, on commence! Alors, on commence avec la prise du crayon. Prise de crayon, l'article s'intitule « Prise du crayon, révisons nos positions ». C'est un texte de Natacha Rouleau et Judith Beaulieu, publié sur le site L'ergothérapie de la maison à l'école, le 11 juin 2018. Ce site, l'ergothérapie de la maison à l'école, évidemment, c'est un site d'ergothérapeute. Les enseignants nous demandent souvent aux ergothérapeutes comment ils devraient aborder la prise du crayon. Est-ce une notion à enseigner? La prise instinctive devrait-elle être respectée? Est-ce que seulement la prise traditionnelle à trois doigts devrait être favorisée? Et là, je vous vois tous, vous imaginez, tout le monde est...
en train de prendre son crayon.
C'est ça, oui. Alors, on va parler de ça. La prise à trois doigts avec le crayon en appui sur le majeur, qu'on appelle la prise tripode, a longtemps été considérée comme la prise la plus mature et efficace pour la manipulation du crayon. Yvan lève la main.
Il y a vraiment quelqu'un qui a donné un nom à la façon dont on tenait le crayon?
Non seulement il y a un nom, mais il y a plusieurs prises et il y a plusieurs noms.
Oh
oui?
Mon Dieu!
Et donc, on pensait que cette prise, la prise tripode, était la seule à permettre d'abord une liberté de mouvement de l'index, du majeur et du pouce, ensuite une stabilité de la main et finalement un contrôle du crayon pour des traits arrondis et fluides. Mais qu'en est-il de la fonction? À quoi ça sert? La prise du crayon n'est pas un objectif en soi. Le but ultime n'étant pas de tenir le crayon d'une manière précise, mais de le contrôler aisément pour écrire des lettres de belle qualité, enchaîner et exécuter rapidement avec un minimum d'effort. Au-delà de la prise du crayon, donc, l'objectif est que l'écriture soit fonctionnelle. Ainsi, un questionnement surgit. Existe-t-il un lien entre la prise du crayon et l'écriture fonctionnelle, c'est-à-dire l'écriture rapide et de bonne qualité? Des chercheurs, croyez-le ou non, se sont penchés sur ce point. Afin de l'évaluer, ils ont effectué des mesures de vitesse, de lisibilité, ils ont vérifié la fatigue, la pression sur le manche du crayon et la pression sur la mine auprès de centaines d'enfants et d'adultes. La conclusion de ces travaux fait consensus, la prise tripode n'est pas la seule à mener à une écriture lisible, rapide et sans fatigue. Les prises du crayon suivantes, dont je vais vous les décrire, sont désormais considérées comme équivalentes pour l'atteinte d'une écriture fonctionnelle.
Donc, à vos crayons.
À vos crayons.
Prenez des notes.
Donc, la première, c'est la prise tripode dynamique. Alors, c'est la prise la plus connue. Le bout du pouce est sous le manche du crayon. Il fait opposition à l'index et contribue à mobiliser le crayon qui s'appuie sur le majeur. Donc, on tient avec trois doigts et c'est dynamique. Ensuite, la prise quadripode dynamique. Alors ici, le bout du pouce est sous le manche du crayon. Il est en opposition au majeur et contribue à mobiliser le crayon qui s'appuie cette fois-ci sur l'annulaire. Donc, au lieu de s'appuyer sur le majeur, il s'appuie sur l'annulaire. On prend le crayon à quatre doigts ici.
Wow.
La troisième prise, c'est la prise tripode latérale. Alors ici, on ajoute le pouce. La position est identique à la tripode dynamique, mais le pouce vient s'appuyer sur le côté de l'index. Donc, il y a presque toute la main qui bouge. Vraiment, le pouce est en appui. Et la dernière, c'est la quadripode latérale. Donc, elle est identique à la quadripode dynamique avec quatre doigts, mais le pouce vient s'appuyer sur le côté de l'index aussi. Donc, toute la main est prise à partie ici. Et il y a d'autres prises. Dans toutes les recherches consultées, d'autres prises moins fréquentes ont aussi été observées sans nuire à la vitesse ou à la qualité de l'écriture et sans entraîner davantage de fatigue. Ces prises du crayon permettraient un contrôle équivalent du crayon et l'atteinte d'une écriture comparable. On mesure de plus grandes forces exercées sur le manche du crayon dans les prises dites latérales, mais celles-ci ne nuiraient en rien à l'écriture et n'occasionneraient pas plus de fatigue. D'ailleurs, les études rapportent que même chez les adultes, les prises énumérées plus haut sont fréquemment utilisées. De plus, il arrive souvent que la personne modifie sa prise du crayon au cours d'une même tâche d'écriture sans perdre en vitesse ni en lisibilité. Ce serait, semble-t-il, une stratégie pour gagner en endurance. Concrètement, dans le quotidien, on doit se poser les questions suivantes afin d'évaluer l'efficacité d'un enfant, parce que là, on parle aux enfants qui apprennent à écrire.
Mm-hmm.
Donc, l'efficacité de l'enfant avec son crayon. Est-ce que ce sont surtout ses doigts qui contrôlent le crayon? Est-ce que les mouvements produits sont petits, précis et rapides? C'est ce qu'on souhaite. Si oui, on répond oui à toutes ces questions, à ces deux questions, maintenir la prise du crayon est le choix à faire. Sinon, on propose des pistes d'intervention, des exercices pour améliorer la dextérité, le contrôle des muscles de l'épaule et du tronc, ou bien un changement de position des doigts tout en s'assurant que ce changement entraîne une meilleure précision, vitesse ou aisance du tracé, parce que c'est l'inverse parfois qui se produit et on veut pas ça, ou encore une modification de la forme, de la taille ou de la texture du crayon, toujours en s'assurant des effets positifs de ce changement sur la précision, la vitesse et l'aisance de l'enfant lorsqu'il utilise son crayon. Donc, les études nous ramènent à l'essentiel de la fonction d'une prise du crayon, soit l'écriture lisible et rapide. L'efficacité de celle-ci ne se mesure certainement pas à une position de doigt sur le crayon. Il va sans dire qu'il est préférable de laisser davantage de liberté dans la mise en place d'une prise de crayon. Il serait stratégique de mettre nos efforts dans le développement de bons muscles des mains, des membres supérieurs et du tronc, de même que dans le développement de la dextérité et du contrôle du crayon. Et l'article se termine par des recommandations pour stimuler une prise efficace du crayon. Alors, on dit varier les types de crayons utilisés, des craies de cire, des marqueurs, des crayons de bois, des craies, de différentes formes et de tailles, donc de gros crayons, des crayons courts, des crayons toupies. Les crayons toupies, là, c'est des crayons qui ont l'air des toupies, comme des boules.
Ah, ouais.
Et pour la prise, l'appréhension des tout jeunes enfants, c'est très intéressant parce que c'est plus gros. On suggère de varier les outils utilisés, d'utiliser des pinceaux, des rouleaux de peinture, des étampes, de varier la position des surfaces de travail et la taille de l'activité, donc de travailler sur un tableau, un chevalet, une feuille de papier collée au mur, une feuille de papier au sol, sur l'asphalte directement ou sur des petits papiers. Et finalement, de faire des activités de précision de toutes sortes avec les crayons, en alternance avec des gestes de plus grande amplitude, mm-hmm. donc pour travailler les muscles différents. Ce texte était donc un texte de Natacha Rouleau et Judith Beaulieu et c'est publié sur le site L'ergothérapie de la maison à l'école le 11 juin dernier. Alors, Monique, on parle de solitude et de maladie.
Oui, de maladie du cœur.
Du cœur.
Précisément. Ouais. C'est intéressant quand même.
Oui. Hein?
Alors, c'est sous la plume d'Alain Labelle, publié le 13 juin 2018 sur le site d'Info Radio-Canada. Et l'article s'intitule « La solitude, ennemie des cœurs malades ». Alors, semble-t-il que le fait de vivre dans la solitude pourrait être un facteur important de décès prématuré, d'une détérioration de la santé mentale et d'une mauvaise qualité de vie chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire. Alors, la chercheuse Anne Vingard-Christensen et ses collègues de l'hôpital universitaire de Copenhague au Danemark ont voulu connaître l'effet d'un réseau social déficient sur la santé du cœur des personnes seules. Parce que la solitude est plus fréquente aujourd'hui que jamais et plus de gens vivent seuls. Et justement, à cet égard, qu'en est-il de la solitude au Canada? Hein? Eh bien, pas moins de 28,2% des ménages du pays étaient composés d'une seule personne en 2016, selon Statistique Canada. Les ménages formés d'une seule personne sont devenus en 2016 le type de ménage le plus répandu au pays, dépassant les couples avec enfants. Quand même, quand hein? même. Et les femmes âgées sont plus susceptibles de vivre seules que les hommes âgés. Alors, pour comprendre l'effet de la solitude sur la santé cardiaque, l'équipe danoise a analysé les données des registres nationaux et celles recueillies lors de l'enquête Denheart auprès de 13 463 personnes atteintes de cardiopathie ischémique, d'arythmie, d'insuffisance cardiaque ou de valvulopathie. Ces dernières avaient répondu à un questionnaire concernant leur santé physique et mentale, des facteurs associés à leur mode de vie comme le tabagisme, mais surtout le soutien dans leur milieu de santé de vie, dans leur milieu de vie, pardon. Le soutien social a été mesuré à l'aide des données du registre chez les personnes qui vivent seules ou non. Alors, il est important pour l'équipe de recherche de recueillir des informations dans les deux cas, car certaines personnes peuvent vivre seules, mais ne pas ressentir de solitude, alors que d'autres cohabitent, mais se sentent fort seules.
Oui.
Alors, de précédentes études avaient montré que la solitude et l'isolement social sont liés aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux. Mais le lien n'avait pas été étudié chez les personnes atteintes de différents types de maladies cardiovasculaires comme celles que j'ai énumérées antérieurement. Les chercheurs ont établi que le sentiment de solitude était associé à de mauvais résultats chez tous les participants, quel que soit leur type de maladie cardiaque, et même après avoir procédé à des ajustements en fonction de l'âge, du niveau de scolarité, d'autres maladies, de l'indice de masse corporelle, du tabagisme et de la consommation d'alcool. Alors, la solitude est associée à un risque de mortalité deux fois plus élevé chez les femmes et presque deux fois plus élevé aussi chez les hommes que chez les personnes qui n'en souffrent pas. Les hommes et les femmes qui se sentent seuls sont trois fois plus susceptibles de présenter des symptômes d'anxiété et de dépression, et la qualité des personnes qui vivent seules est beaucoup moins bonne que celles qui ne se sentent pas seules. Alors, les personnes qui ne peuvent compter sur un bon soutien social pourraient obtenir de moins bons résultats en fonction d'un mode de vie moins sain parce qu'elles ne suivent pas leur médication correctement ou parce qu'elles gèrent moins bien les événements stressants. Alors, selon les auteurs de ces travaux qui ont été présentés lors du congrès de l'Association européenne de cardiologie qui se tenait à Dublin en Irlande, les autorités médicales devraient prendre la solitude en compte lorsqu'elles calculent les facteurs de risque de maladie cardiaque. Donc, ne pas regarder juste l'aspect physiologique, mais considérer l'aspect, je pense, plutôt émotif, puisque la solitude...
Oui. Dans un contexte plus global.
Plus global, c'est ça. Holistique, ouais. dirait-on. Alors voilà, c'était donc un article d'Alain Labelle publié le 13 juin 2018 sur le site Info Radio-Canada.
Mm-hmm.
Alors en complément, et pour nous réjouir un petit peu,
oui.
hein, parce que bon, ben, enfin, il faut être conscient de ces
éléments-là. C'est une situation qui est triste, effectivement.
Oui, de parler de solitude ouais. dans notre société. Hein? Ou l'information.
Oui, les êtres humains, ces êtres grégaires qui ont besoin les uns des autres.
C'est ça, mais oui. On est seul sur une plage, puis tout d'un coup, tout le monde est collé sur nous. Oui. Mais sauf dans nos maisons. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'une chanson nous trotte dans la tête?
Ben oui. Oui.
Ah, alors, aussi
persistante. J'espère que tu ne donnes pas d'exemple.
Hein? Il y en a, oui, mais c'est des vieilles chansons, vous allez voir. Aussi persistant qu'agaçant, ces petits airs dans nos têtes semblent y élire domicile. Tels des vers dans les fruits, d'où leur surnom de vers d'oreille. La raison? Eh bien, si elle n'est pas rigoureusement expliquée, les nombreuses recherches, donc il y a quand même des recherches là-dessus, il y a des recherches
sur
tout,
matin de recherche.
Hein, sur le sujet, ont permis de mettre en avant deux causes principales. D'abord, notre mémoire musicale est très solide. Ah, on est content d'apprendre ça.
Oui, mais alors les personnes Alzheimer, il me semble.
Alors que la mémoire verbale fait uniquement appel à l'hémisphère gauche du cerveau, la musique, elle est enregistrée par les deux hémisphères avant d'être stockée dans les deux lobes temporaux. Alors, elle persiste plus longtemps ainsi. À cela s'ajoute ensuite le pouvoir évocateur de l'environnement. Si une situation fut par le passé associée à une chanson par notre cerveau, eh bien la démangeaison musicale a de grandes chances de réapparaître dans une situation analogue. Il y a aussi le fait que ce type de chanson, les mots sont simples et la ritournelle est assez facile
à mémoriser.
Donc, après avoir analysé les airs présents dans la tête de nombreux volontaires, les chercheurs ont dressé, entre autres, un top des chansons les plus accrocheuses.
Oh, mon Dieu.
Alors, il y a des titres comme The Champion, The Queen, YMCA, The Village People, ou The Final Countdown d'Europe.
Ouais.
Bon, c'est sûr que c'est sûrement des chercheurs plus anglophones, là, parce qu'il y en a certainement du côté francophone.
Les référents culturels sont différents.
Oui, ils sont très importants quand même. Donc, je disais, donc, arrivèrent en tête, rien d'étonnant à ce que les tubes de l'été, faciles à mémoriser et souvent diffusés, donc associés à de nombreuses situations, occasionnaient autant de souvenirs potentiels. Parasitent aussi nos pensées, bien sûr. Donc, en attendant plus d'explications, une astuce pour se débarrasser de vers d'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Porter des bouchons d'oreille.
Non, il faut mâcher de la gomme.
Vraiment?
Ben, c'est ce qu'on dit. Alors, je vous souhaite un bon été en chanson.
Ah, tu nous laisses comme ça.
Cherchez le lien.
La tête en gigue et le cœur en ce temps, me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Temps perdu à craindre les trains. Éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent par tes mains. Et mon amour devient serein. Renouveau et découverte. J'apprivoise ta tendresse, je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en ce temps, me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre les trains, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent si simples. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà, enfin, au large.
Eh oui, Jimmy Bertrand, la tête en gigue.
Oui, on les aime, eux.
J'avais quel âge?
Est-ce qu'on s'en souvient?
Peut-être plus.
Alors, restons dans le présent. Yvan, on s'en va marcher aux îles.
On reste dans le présent, puis dans un futur proche, parce qu'on y va, aux îles de la Madeleine. Je vous amène aux îles de la Madeleine sous la plume de Simon Diotte. C'était dans l'actualité, ben, en fait, c'est dans l'actualité qui est en kiosque présentement, l'actualité de juillet 2018. Ça s'appelle « Compostelle aux îles ». Puis ça va être mes deux interventions. Il nous dit que traverser les îles de la Madeleine à pied, entre collines verdoyantes, falaises de grès rouge et plages de sable blanc, avec en toile de fond le bleu du ciel et de la mer, ça semble paradisiaque. Notre journaliste, Simon, a testé le nouveau circuit qui parcourt les 12 îles, je ne savais même pas qu'il y avait 12 îles, de l'archipel, et peut le confirmer, ça l'est. Paradisiaque. Ce ciel immense, si omniprésent aux îles de la Madeleine, jamais obstrué par des arbres, des montagnes ou des immeubles, se reflétant sur la mer à l'infini, hypnotise les randonneurs. Serait-ce parce que dans cet archipel perdu au milieu du golfe du Saint-Laurent, le paradis rencontre la terre? À marcher dans les îles depuis des jours, je me demande si j'ai perdu la raison, obnubilé par les mirages marins, ou si, prosaïquement, j'ai enfin trouvé mon coin de paradis. À ma deuxième visite aux îles, le charme Madelino opère plus que jamais. Cette fois-ci, je suis arrivé en avion plutôt que par le traversier en voiture, quittant la chaleur étouffante de Montréal en cette fin septembre pour respirer l'air conditionné au parfum du golfe du Saint-Laurent. Ma mission journalistique, parcourir à pied, si le temps le permet et si les ampoules ne viennent pas me hanter, quelques-uns des 13 tronçons des sentiers entre vents et marées, tout juste inaugurés. Entre vents et marées, c'est le nom des sentiers. Ce Compostelle maritime, qui, sur 230 km, relie la douzaine d'îles de l'archipel, constitue un itinéraire unique au Québec, et peut-être même en Amérique du Nord. Son tracé, des étapes variant de 6 à 27 km chacune, court sur le sable fin des plages et des dunes, grimpe sur des falaises de grès rouge, traverse le cœur de tous les villages et nous plonge dans les rares forêts des lieux. Il nous invite même à prendre le traversier pour aller marcher sur le seul morceau de terre habité de l'archipel à n'être pas connecté aux autres par la route principale, l'île d'entrée. Le slogan du circuit, « La mer sous vos pieds », est tout à fait approprié. Depuis son lancement au début de l'été 2017, entre vents et marées, le mot « marée » signifie également une période de temps dans la parlure locale, comme dans l'expression « nous avons connu une mauvaise marée ». Suscite un engouement qui va au-delà de ce qui avait été prévu. Bien que l'itinéraire n'ait pas encore été finalisé, des dizaines de randonneurs ont déjà foulé ce milieu insulaire, affichant fièrement leur conquête sur les réseaux sociaux. Certains pour en avoir réalisé quelques étapes, d'autres pour l'avoir marché au complet et pouvoir brandir le certificat baptisé l'estran, mot du vocabulaire marin qui désigne la partie du littoral recouverte par les marées, prouvant qu'ils ont achevé au moins 12 des 13 étapes. Ce fut le cas de Marilyn Roy, qui a marché la totalité du parcours en 3 semaines. Alternant randonnée et journée de repos. J'ai découvert 1000 endroits dont je ne soupçonnais pas l'existence, malgré un voyage précédent à vélo, en plus de vivre un grand moment de zénitude, témoigne cette technicienne en éducation spécialisée au secondaire qui se promet de revivre l'expérience. L'idée de ce sentier au long cours a germé dans la tête de Carole Turbide, une résidente des îles, triple vétérane de Compostelle, qui fait de la randonnée son mode de vie. Je voulais boucler mes îles en rando afin de permettre aux Madelinos de vivre une expérience à la Compostelle dans leur patelin sans devoir prendre l'avion, raconte cette technicienne en sciences halieutiques à Pêche et Océan Canada, attablée devant un café à Cap-aux-Meules. Halieutique, c'est les sciences de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques. Mm-hmm. Loin d'elle l'idée d'en faire une attraction touristique. Change de page. Je pensais davantage à un chemin plus spirituel, dit cette jeune quinquagénaire. Afin de concrétiser son rêve, Carole Turbitt forme un comité composé de retraités actifs ayant foulé au moins un des chemins de Compostelle et connaissant chaque grain de sable de leurs îles, et trace un itinéraire qui passe presque uniquement par les plages. En 2015, elle met son parcours à l'épreuve avec des amis et quelques madelinots pendant une expédition de 9 jours aux étapes trop longues, traversant à gué les goulets, les chenaux, ces chenaux qui relient les lagunes à la mer, comme savent le faire les madelinots. Le Compostile, comme le surnommeront quelques madelinots, reçoit un accueil très favorable en 2016, tellement que la mairie de la municipalité des îles de la Madeleine, qui englobe tout à l'exception de Grosse-Île, l'Association touristique régionale et d'autres intervenants poussent le comité à accélérer le rythme dans le but d'ouvrir le parcours à l'été 2017. On n'avait qu'un an pour tout mettre en œuvre, dit Claire Boudreau, l'aînée du groupe, dit la représentante du randonneur moyen. La petite équipe de bénévoles, aussi constituée de couples, Fernande Petitpas et Jean Bouffard, ainsi que Carole Longue-Épée et Réal Jonfe, se retroussent les manches. Tout est à faire, du tracé qui devait esquiver les goulets, trop périlleux pour les touristes, en passant par la documentation et la question des assurances. Un an plus tard, mission accomplie, nous nous sommes fait prendre au jeu. La conception du sentier est devenue une passion, dit Fernande Petitpas, retraitée du monde de l'enseignement dans le début de la soixantaine, qui m'a accompagnée pendant 3 jours de randonnée. Et la suite, c'est tantôt.
Oui, la suite après la chanson. En fait, vous restez avec nous parce que la suite de l'article Compostelle aux îles, une classe de rêve, la classe de rêve d'une enseignante, et les raisons, les explications scientifiques qui font qu'on cherche à être heureux.
Mm-hmm.
Voilà.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Les chemins de gravel s'en vont tout croche, rayons de soleil, lumière de roche, poussière de lune quand vient la nuit. Les chemins de gravel te ramènent d'où t'es parti. Tout droit vers elle, l'amour de la vie, l'amour qui roche au paradis, l'amour tout moche qui traîne de l'aile, s'en vont tout croche, les chemins de gravel, s'en vont tout croche, les chemins de gravel. Sont souvent sous trop d'hydromel, trop de caribou. Trop tôt pour elle, trop tard pour lui. Les chemins de gravel sont souvent seuls sous la pluie. La pluie si belle sur la garnotte, perle de ciel qui mouille les bottes et laisse des traces sur le tapis. Les chemins de gravel souvent s'ennuient. Les chemins de gravel souvent s'ennuient. chemins de gravelle fredonnent des airs de violoncelle. Et sous la glace, la neige, le vent, jusqu'au printemps, les chemins de gravelle sont très patients. Mamie, ma femme, ma douce, ma belle, ma blanche dame, ma noire de ciel, ma bonne augure, ma lune de miel, attends-moi sur le chemin de gravelle, attends-moi sur le chemin de gravelle.
On retrouve Les Chemins de Gravel, cette chanson de Michel Rivard sur son album Confiance.
Vous écoutez Les Voix de service.
Ben oui, nous écoutons Les Voix de service.
Ben oui, c'est ça.
C'est nous autres. De retour avec toi, Yvan.
On est surpris par cette annonce.
On est de retour avec toi, Yvan, on revient.
Oui, on retourne.
Aux îles.
Aux îles, faire un chemin à la Compostelle, mm-hmm. aux îles.
On a déjà du sable dans les chaussures.
Ouais. Du sable, puis on voit la mer, puis les collines qui sont toutes en rond, mais je continue, excusez-moi.
Tu t'emportes.
Je m'emporte.
Calme-toi.
Simplement, en ce qui concerne le balisage, il a fallu plus d'un mois de travail à 4 bénévoles à temps plein pour le terminer. Nous l'avons marché au complet sans jamais utiliser de quad, transportant les balises à bout de bras, dit fièrement Jean Bouffard, ex-gestionnaire d'Hydro-Québec. Il manque d'arbres en cette terre acadienne sur lesquels afficher les indications aux randonneurs. Alors, la coquille Saint-Jacques, symbole du circuit, a été peinte sur les poteaux d'Hydro-Québec, avec sa permission, sur les roches, sur le bitume, bref, n'importe où, afin que les randonneurs ne se perdent pas. On voulait limiter au minimum l'utilisation des panneaux de signalisation pour ne pas dénaturer le paysage, dit Carole Longue-Épée, infirmière retraitée et présidente du comité. Si le trajet sur les plages ne comporte pas d'écueils, il en va autrement en terre ferme. Les îles de la Madeleine sont constellées de propriétés privées. À moins de passer par la route, qui est plate, difficile de ne pas fouler le sol d'autrui, c'est là qu'entre en scène la culture madelinienne. Nous sommes allés rencontrer les propriétaires un à un afin d'obtenir un droit de passage. Chaque fois, la conversation commençait par la traditionnelle question « T'es le fils de qui, toi? » raconte Jean Bouffard en riant. Les liens familiaux dans un territoire si étroit et si soudé qui compte 13 000 habitants valent leur pesant d'or. À l'île du Cap-aux-Meules, où résident les membres du comité, ces derniers connaissent tout le monde. Leur démarche se complexifie lorsqu'ils demandent un droit de passage à un résident d'une autre île. C'est plus difficile quand tu n'es pas de la place, admet Fernande Petitpas, au nom prédestiné pour la marche. La solution, déléguer la gestion du droit de passage aux gens du coin. Par exemple, nous avons organisé une assemblée publique à Grande Entrée, la capitale québécoise du homard, et nous leur avons dit « Si vous voulez que le sentier passe par chez vous, arrangez-vous pour obtenir le droit de passage sur les plus beaux emplacements de votre île », dit Jean Bouffard. Leurs vœux ont été exaucés, car le sentier bordera le bassin aux huîtres en 2018. Je ne sais pas c'est quoi le bassin aux huîtres, donc destination.
Nous irons.
Plutôt que de clopiner sur la route 199, comme ce fut le cas dans ce secteur en 2017. Pardon. Là où ça se complique, c'est avec les propriétaires fonciers venant du continent.
Oui,
car
donc,
les îles attirent...
Les gens qui viennent d'ailleurs, qui s'achètent quelque chose là-bas.
C'est ça. Car les îles attirent les continentaux. Il n'y a pas que l'animatrice Julie Snyder qui y accoste en été. De nombreux urbains acquièrent des propriétés en vue d'en faire leur port d'attache. Ce sont souvent les plus récalcitrants, affirme Fernande Petitpas. Ils sont aussi plus difficiles à joindre. Le meilleur est donc à venir, car le tracé s'améliorera au fur et à mesure que nous réussirons à obtenir tous les droits de passage, ajoute-t-elle, d'où la mention « en développement » sur le site web du comité. Si sentier entre vents et marées n'atteint pas encore la perfection, il en met déjà plein la vue. le buffet de magnifiques paysages étant aussi abondant aux îles que les homards. En quelques jours, j'ai marché sur des kilomètres de plages sauvages grouillant de phoques curieux, escaladé les demoiselles, ces buttes dénudées et arrondies qui ponctuent le faible relief des îles, et sauté de cap en cap, surplombant la mer et ses vagues, face aux vents madelinaux qui ne décollèrent jamais. Partout, la mer et les maisons aussi colorées que les fleurs au printemps. Leur couleur servait autrefois de point de repère aux pêcheurs, m'explique Rémi Martinet, homardier de l'île du Havre-Aubert, moi qui pensais que c'était par pure coquetterie. Ce chemin blond, plage, rouge, falaise et bleu, mer, espèrent les fondateurs, poussera les entreprises madeliniennes à proposer des services aux randonneurs comme le transport de bagages ou encore des navettes qui restent toujours à intégrer. Les marcheurs l'empruntent actuellement en autonomie complète, réservant eux-mêmes leurs hébergements en chemin, explique Carole Longuépée. Des voyages guidés pourraient se mettre en place. C'est l'occasion pour des secteurs dévitalisés de promouvoir leur attractivité. Par exemple, sur l'île d'Entrée, un bout de terre isolé où se trouve le Big Hill, je pensais que tu allais le dire, point culminant de l'archipel, 174 mètres d'altitude. Les habitants veulent agrandir leur réseau pédestre et transformer l'école désaffectée en centre d'hébergement. Le but, prolonger la visite des randonneurs qui, autrement, ne feraient que passer quelques heures sur ce bout de terre vert comme l'Irlande. Le sentier devient ainsi moteur de développement. En quête de spiritualité, entre vents et marées ne nous laisse pas en chemin puisque le parcours permet de visiter toutes les églises des îles. C'était important pour moi d'offrir des lieux de recueillement et de repos tout en mettant en valeur ce riche patrimoine madelino. Chaque lieu de culte a sa personnalité, comme celui de Grosse-Île avec son vitrail représentant Jésus portant des bottes en caoutchouc comme les pêcheurs, ou celui de Saint-Pierre-de-la-Vernière, construit avec du bois de bateau naufragé, dit Carole Turbide. Les îles de la Madeleine, terre de zénitude, Compostelle en maintenant de la concurrence, et vous pouvez avoir des détails sur le site de Tourisme Île de la Madeleine, en un mot, .com, puis vous allez voir l'onglet Vents et marées. C'était un article que j'ai trouvé et que j'ai adoré dans l'actualité de juillet 2018, qui s'appelle « Un Compostelle aux îles », qui est écrit par Simon Dillotte. Dillotte, plutôt.
Dillotte, oui.
Et on y va bientôt.
Oui, merci. Alors, on déménage, on change d'univers, tout à fait. On s'en va dans la classe de rêve de Madame Chantal. Alors, c'est de coutume maintenant d'appeler les enseignants par monsieur, madame et leur prénom au primaire. C'est un texte de Mylène Moisan, publié dans Le Soleil le 26 juin. Il y a une couple d'années, Chantal Fortin a hérité d'un modeste local pour sa classe de 3e. Elle se demandait bien comment elle allait faire pour y installer 26 pupitres sans les empiler un par-dessus l'autre. Elle a eu une idée. Elle avait lu quelque part à propos d'un nouveau concept, la classe flexible, où les élèves n'ont plus une place attitrée. Pas de table avec leur nom collé devant. L'idée est plutôt simple, quelques tables, des chaises et des meubles, pêle-mêle, où les enfants choisissent de s'installer, le matin dans une chaise berçante, l'après-midi sur la caisse de lait, ou au bureau du prof. En repensant ma classe, je voulais favoriser le travail collaboratif, faciliter l'accompagnement des élèves et créer une ambiance chaleureuse dans un endroit où on a le goût de passer toute une journée. Chantal n'avait évidemment pas de budget pour réaliser son idée. Elle a couru les brocanteurs, les ventes de garage et les marchés aux puces pour dénicher du beau, bon, pas cher. Elle a réussi à trouver ce qu'elle voulait, des meubles pas trop imposants et 24 places pour s'asseoir. Un parfait bric-à-brac. Les élèves ont tout de suite craqué pour le concept. Mon grand était dans la première cohorte, donc c'est Mylène Moisan, dont le plus vieux est allé dans cette classe-là. Et les élèves qui étaient en deuxième à la fin de l'année se croisaient les doigts pour être dans la classe de Mme Chantal, ce qui n'enlève rien aux qualités des autres profs. Au printemps dernier, Richard Vallée est venu à l'école Saint-Fidèle au cours de sa tournée annuelle. Richard est le directeur général adjoint aux affaires administratives de la commission scolaire de la capitale. On est dans la région de Québec. C'est lui qui tient en quelque sorte les cordons de la bourse. Il évalue les besoins, octroie les budgets en conséquence. La directrice de l'école lui a proposé de visiter la classe flexible de Mme Chantal. Il a demandé aux élèves ce qu'ils aimaient de la classe et ce qu'ils n'aimaient pas, raconte l'enseignante. Le seul point qui est ressorti dans ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que ce n'était pas toujours solide, ça brisait. Ça aurait pu en rester là. Mais non, Richard a tout de suite pensé à l'entreprise de formation Dimension, à qui il avait déjà confié des projets. C'est un organisme social qui vise à donner un métier à des jeunes décrocheurs en les initiant à la menuiserie et à la soudure. Il a demandé à Mme Chantal de mettre sur papier sa classe de rêve. Elle ne s'est pas fait prier. Je suis partie avec le concept « Et si la beauté rendait heureux ?» C'est le titre d'un ouvrage de Pierre Thibault et de François Cardinal.
Ah oui, très intéressant. Voilà. Je vous suggère de le lire.
Oui, hein? Oui. J'ai cherché à maximiser l'espace, à rendre la classe agréable, épurée pour ceux qui ont des troubles d'attention. J'ai pensé à mes élèves. Une phrase du bouquin l'a particulièrement inspirée. « L'architecture nous envoie des messages. » Tu es un humain qui a une journée à vivre, vis-la ici, dans un environnement qui te permettra de la savourer pleinement. Richard a donné le feu vert. J'ai présenté mon projet et il a décidé de le financer. La nouvelle classe a pris forme au cours de l'année. Les jeunes qui ont fait les meubles venaient les installer. Ils étaient tellement fiers d'eux. Certains en ont profité pour donner un conseil aux élèves de troisième. Rester à l'école, c'est important. Ils sont bien placés pour le savoir. Les meubles sont faits en bois solide, du merisier russe. La main-d'œuvre n'a rien coûté. Tout le budget a été alloué aux matériaux. On a choisi un bois de qualité pour que ça dure, précise Richard. C'est bien beau du plastique, mais après 10 ans, c'est fini. Il faut tout remplacer. Il faut penser à long terme. Que ça fait du bien à entendre le mot « long terme », une espèce en voie de disparition en cette ère de gestion à courte vue. Richard a trouvé que le grand mur face aux fenêtres avait l'air chenu. Il a proposé d'en faire une fresque en 3D, de confier le projet à Caroline, enseignante à l'école des métiers. Elle s'est attelée à la tâche devant les enfants, qui ont parfois joué le rôle de conseillers artistiques. Le lapin, c'est leur idée. Chantal, elle, a fabriqué les coussins. J'ai magasiné les coussins pour les grands bancs, c'était cher. J'ai fait acheter le tissu et je les ai faits avec ma mère. Richard a aussi lancé l'idée de faire une inauguration dans les règles de l'art par un bel après-midi de semaine. Les enfants servaient des verres de mou aux visiteurs. Ils étaient tout contents de montrer leur classe. Des parents sont passés, des grands-parents aussi, comme cet homme qui sirotait son mou dans la chaise berçante. Un élève de la classe arrivé en novembre, de Saint-Martin, après le passage de l'ouragan, a remis une gerbe de fleurs à Mme Chantal. Et oui, je l'ai vu, de mes yeux vus, la beauté rend heureux.
Ah.
Un beau texte de Mylène Moisan. Alors, je me disais, en cette fin d'année scolaire, quand on pense aux profs et à tout ce qu'ils peuvent faire pour rendre leur classe plus belle et dynamique.
Mm-hmm.
Voilà, c'est publié dans Le Soleil le 26 juin dernier. Alors, Monique, pourquoi on cherche tout le temps, à être heureux?
Mais oui.
C'est la question.
Et c'est Emmanuel Monnier, qui est journaliste pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018.
De printemps, mettons.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit.
Non.
Alors, bon, je respecte.
Oui.
Alors, le titre, pourquoi cherchons-nous tellement à être heureux? Alors, la nature, semble-t-il, n'a jamais voulu notre bonheur. Elle n'a jamais voulu quoi que ce soit, d'ailleurs. Elle se contente de sélectionner au fil des générations ceux qui survivent le mieux. Quel rapport avec le désir d'être heureux dont chacun sait bien qu'il le tenaille autant qu'il décide de ses choix de vie? Alors simple, si la quête du bonheur est ancrée en nous, c'est qu'elle doit forcément représenter un avantage évolutif. Reste à savoir lequel. Alors, sachant que par bonheur, il faut entendre non la satisfaction d'un besoin, mais l'état qui pousse à chercher ce dont on attend la plus grande joie.
Oh.
Sur cette base, nos chercheurs, les neurobiologistes, se sont donc penchés sur la recherche de nourriture chez les primates. N'oublions pas que nous faisons partie des primates, lesquels sont en règle générale frugivores. Or, les fruits savoureux ne se trouvent pas partout dans la forêt. Quand on est un primate, on a donc besoin d'une représentation mentale qui indique où et quand je peux trouver tel ou tel fruit, explique Sébastien Bourret, qui est chercheur au CNRS. Et cette représentation mentale doit être suffisamment motivante pour convaincre le singe de parcourir d'arbre en arbre plusieurs kilomètres avant d'espérer profiter du festin. Donc, pour survivre, le primate doit, avant même d'avoir faim, mobiliser un ensemble de souvenirs, en déduire la projection d'une action future et en ressentir un plaisir fort, motivant, alors même que ces fruits n'ont pour lui encore aucune existence réelle. Et ici se trouverait, selon les lois de l'évolution, l'origine de notre quête du bonheur. Il s'agirait d'une motivation suffisamment forte pour que nos ancêtres primates n'attendent pas d'avoir faim avant de se mettre en quête des fruits savoureux, mais difficiles à trouver. Motivation devenue par la suite une aspiration typiquement humaine. Il se trouve que cette théorie est cohérente avec ce que les paléo-anthropologues savent du développement cérébral. Si le cerveau du primate homo a triplé de volume en quelques millions d'années, c'est surtout au profit des régions frontales, et en particulier du cortex préfrontal. Ça fait tellement de fois qu'on parle de ce cortex. Alors, quelle est la fonction principale de celui-ci? Créer des stimulations et les évaluer. Là est sans doute la distinction la plus fondamentale entre l'homme et les autres animaux. Une telle approche utilitaire explique également pourquoi le bonheur est si intimement lié à la confiance en soi. Plus j'ai confiance en ma simulation, plus elle est efficace pour motiver l'action. Or, ne rien faire, c'est mourir. Il est donc logique que la sélection naturelle ait favorisé une capacité à surestimer ses chances de succès. D'où un curieux paradoxe. S'il est un indécrottable optimiste, l'humain est en même temps une redoutable machine à déprimer, précisément parce qu'il néglige ce qu'il possède au profit de ce qu'il n'a pas, mais espère avoir. Si la fonction du bonheur est de nous inciter à aller chercher les choses qui sont les meilleures pour vous, alors il est normal qu'il se concentre sur la possibilité qu'elle soit moins bien là où nous sommes et forcément mieux ailleurs. C'est l'herbe qui est plus verte de l'autre côté de la clôture.
Voilà.
Notre proposition au bonheur est ainsi l'un des ferments de nos idées noires, parce que notre cerveau a été modelé par des millénaires d'évolution pour ne jamais être totalement satisfait et chercher toujours mieux ailleurs, toujours plus haut, toujours plus beau. Et on ne se mettra pas à chanter. Faut-il s'en affliger? Pourtant, on doit sans doute à cette insatisfaction chronique les pyramides ou les premiers pas sur la Lune. Mais la raison commande de ne pas être dupe. Même si, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, les gens finissent par s'y habituer, sur le chemin, ils auront néanmoins été tout de même heureux. Alors, c'est souligné par Claudia Sénic, qui est spécialiste du bonheur à l'École d'économie de Paris. Alors, je trouvais intéressant de vous le dire, parce que bonheur et économie de Paris...
C'est rare qu'on fait ce lien-là.
C'est ça. Alors, une conclusion qui fait écho à celle formulée au 19e siècle par le philosophe anglais John Stuart Mill. Sont heureux ceux qui ont leur esprit focalisé sur autre chose que leur propre bonheur, ayant d'autres objectifs en tête ils trouvent le bonheur sur leur chemin. Comme nous, nous trouvons le bonheur à vous lire ces articles.
Oui, puis à venir à la radio le jeudi.
C'est ça. Si nous sommes condamnés à chercher le bonheur, comprendre les ressorts de cette quête sans fin permet au moins de ne pas désespérer. Alors, c'était un article d'Emmanuel Monnier pour la revue Science et Vie.
C'est très intéressant. Avril,
mars, avril, mai 2018. Merci.
Alors, cette semaine, c'est comme le théâtre La Roulotte a commencé ses présentations. Cette année, il présente Le Petit Prince en plein air.
Oui.
Alors, imaginez, la scène se déroule au petit matin. Un aviateur égaré dans le désert entend une voix d'enfant lui demander « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Alors, ça réveille en nous des images chez tous ceux qui ont lu ou qui ont entendu leurs parents leur lire à haute voix le conte, le célèbre Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, l'idée de revisiter ce classique est celle du dramaturge Éric Noël et ça s'appelle Astéroïde B612, en référence à l'astéroïde d'où vient le Petit Prince. Alors, pour trouver le parcours de la roulotte, www.accèsculture.com et on va trouver là, le trajet de la roulotte cet été dans les parcs à Montréal.
Et ce qui est intéressant, c'est que nombreux personnages sont joués par des femmes, contrairement à l'histoire originale où il n'y avait que des hommes.
C'est vrai, oui, tout à fait. Merci, Monique. Et une autre brève, tiens, de Yvan?
Oui, toujours dans mes brèves d'événements caritatifs sportifs, le défi kayak dégagné qui va avoir lieu du 9 au 12 août. Ce défi hors du commun qui invite 150 kayakistes amateurs à ramer 250 km sur le fleuve Saint-Laurent en 4 jours est la plus grande randonnée de kayak au monde. Il s'agit aussi d'une expérience humaine exceptionnelle axée sur le dépassement de soi, la persévérance et l'esprit d'équipe. L'événement est tenu au profit de l'organisme Jeunes musiciens du monde qui permet à des jeunes de milieux à risque de développer pleinement leurs capacités et leurs aspirations en offrant gratuitement des cours de musique, des activités d'expression musicale et un accompagnement personnalisé. Plus de 1200 jeunes font actuellement partie des 5 écoles de l'organisme à Québec, Montréal, Sherbrooke et dans la région autochtone de Kitchissakik et en Inde. Il n'y a pas de date limite pour l'inscription, mais les organisateurs encouragent les participants à entamer une certaine préparation physique environ 3 mois avant l'événement. Comme il reste à peu près 1 mois, ben ceux qui sont bien en forme, peut-être, pourraient s'inscrire.
Intéressant. Monique, une petite brève aussi?
Une brève d'une minute, ça vous va?
Bien, certainement.
Oui. Alors, à quelle fréquence se produit le hockey et d'où vient ce rythme?
Trop souvent.
Je sais pas. Il vient du mouvement respiratoire ou du rythme cardiaque, ou des deux, en fait. Difficile de trancher au vu des rares études parues sur le sujet. Alors, en 1990, le neurologue britannique John Newsom Davis a démontré que les hics survenaient à la fréquence des inspirations. Alors, souvent, 2 ou 3 secousses se succèdent à ce moment-là, à très brefs intervalles, avant un temps de repos. Alors, étant donné la gêne occasionnée, parce qu'on a le hockey, les hockeyeurs ont tendance à réduire leur fréquence respiratoire qui passe alors en moyenne de 16 à 10 mouvements par minute. Résultat, à raison de 1 à 3 hockeys par inspiration, cela fait environ 10 à 30 secousses par minute.
Oh, mon Dieu.
Autre facteur qui peut influencer ce rythme, le cycle cardiaque. Il y a une synchronisation très nette. Les secousses du hockey se produisent très fréquemment durant la fin de la systole qui correspond à la fin de la contraction cardiaque. Alors, les deux possibilités semblent donc compatibles, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.
Mais on a le hockey pareil.
On a le hockey pareil, mais on relaxe Yvan, et ça va passer.
Yvan, une vraie brève.
Oui, je vous parle de 60 km de nouvelles pistes cyclables qui sont en voie de remplacer des centaines de places de stationnement en plein cœur d'Oslo. La capitale de la Norvège envisage d'interdire les voitures dans son centre-ville dès 2019, une première en Europe.
Alors, pendant qu'on parle de rapide, fast-food, selon Mathieu, 6 ans, ce sont les restaurants où les parents adorent nous amener parce qu'après, ils n'ont pas la vaisselle à faire. Alors, voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci Monique, merci Yvan, merci à vous, auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine!